France Musique.
Et voici Damien Mestre pour un nouveau journal. Bonjour Damien.
Bonjour Jean-Baptiste. L'enquête avance après l'assassinat de Samuel Paty. Il y avait jusqu'à présent 16 personnes en garde à vue. Mais cette nuit, 6 gardes à vue ont été levées. Et surtout, 7 personnes ont été déférées pour être présentées aujourd'hui à un juge antiterroriste. Les précisions de Dan Fauquemberg.
Une information judiciaire doit être ouverte ce mercredi et le procureur antiterroriste Jean-François Ricard devrait préciser cet après-midi les chefs d'accusation. Parmi les 7 personnes déférées donc, le père de famille qui a lancé la mobilisation sur Internet contre Samuel Paty et qui a échangé des messages avec le terroriste quelques jours avant le drame, 2 mineurs soupçonnés d'avoir reçu de l'argent de l'assaillant en échange de renseignements, le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, déjà dans le fichier de signalement des personnes repérées pour leur radicalisation à caractère terroriste, et enfin 3 amis de l'assaillant soupçonnés de l'avoir convoyé ou de l'avoir accompagné lors de l'achat d'une arme. Parmi ceux qui ont été relâchés hier soir figurent 3 autres mineurs, a priori des élèves du collège de Conflans-Sainte-Honorine, des membres de la famille du terroriste et la compagne de l'islamiste Abdelhakim Sefrioui.
Abdelhakim Sefrioui en garde à vue, déféré, donc. L'organisation pro-palestinienne qui l'a fondée, Cheikh Yassine, sera elle dissoute. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier soir, dissolution qui aura lieu aujourd'hui en Conseil des ministres. À 19h30 aura lieu également l'hommage national rendu à Samuel Paty, hommage dans la cour de la Sorbonne durant lequel le chef de l'État remettra à l'enseignant la Légion d'honneur à titre posthume. C'est un témoignage très attendu, celui d'Édouard Philippe qui va devoir s'expliquer aujourd'hui sur sa gestion de la crise du coronavirus. Il est convoqué devant la commission d'enquête parlementaire 4 mois après son départ de Matignon et c'est la toute première fois que l'ancien Premier ministre va devoir justifier publiquement ses décisions, Karine Becca.
Édouard Philippe a toujours été un bon élève formé par Alain Juppé qui sait que dans une pareille crise, quand on a été Premier ministre, il faut nécessairement rendre des comptes. Et il a d'ailleurs déjà commencé à s'expliquer. C'était il y a un peu plus de 3 semaines à Angers, devant un parterre d'élus, Édouard Philippe, redevenu le maire du Havre pour la première fois, a détaillé la manière dont il a vécu et géré la crise du coronavirus à Matignon. Il est notamment revenu sur la peur qu'il a dû apprivoiser pour réussir à prendre les moins mauvaises décisions. Sauf que cet après-midi, devant la commission d'enquête, Édouard Philippe le sait, la partie sera forcément moins évidente. Devait-il déconfiner si tôt et si vite? Celui qui a mis en garde à la mi-septembre contre la tempête qui nous attendait n'a jamais caché qu'il n'y était pas favorable. Alors a-t-il eu des divergences avec Emmanuel Macron? L'exécutif avançait-il divisé? Édouard Philippe ne pourra pas échapper à toutes ces questions qui seront posées par l'opposition.
Des questions qui, on l'imagine, seront d'autant plus pressantes que la marée monte dangereusement dans les hôpitaux. Quasiment 2200 patients sont actuellement en réanimation, situation particulièrement tendue en Île-de-France. Et il faut s'attendre à ce que ce nombre continue d'augmenter dans les 2 prochaines semaines, prévient Olivier Véran, le ministre de la Santé. À l'étranger, enfin, si les bombardements ont cessé au Haut-Karabakh depuis la fin de la semaine dernière, les échanges de tirs, eux, se poursuivent le long de la ligne de front entre Arméniens et Azerbaïdjanais. Alors, les victimes se comptent par dizaines et forcément, côté arménien, ce bilan empêche toute compassion pour les populations d'en face, alors même qu'elles sont également touchées, Claude Brouillon.
4 jours de calme très relatif, quand on entend encore au loin les coups de canon, ne suffisent pas à oublier l'intensité des bombardements subis pendant les 2 premières semaines du conflit à Stepanakert. Et quand on essaie d'évoquer aussi les victimes civiles du côté azerbaïdjanais, même l'archevêque de l'enclave, Varghe Matesourian, a du mal à cacher sa colère.
Ici, ils ont tué des enfants et des femmes. Ils ont commencé à tuer nos civils. Nous leur avons dit, ne faites pas ça, vous allez recevoir une réponse. Mais eux, pendant 7 jours, ils l'ont fait. En bombardant Stepanakert, Chouchi et d'autres villages. Pourquoi ?
Pour les Arméniens du Haut-Karabakh, les victimes civiles azerbaïdjanaises, notamment à Ganji, sont la conséquence de l'offensive militaire de Bakou et rien d'autre. Naïra, 73 ans, a enterré lundi son fils de 46 ans, tué par un drone à Gadrout au sud du pays. Comment, de telles circonstances, réussir à penser à d'anciens voisins azéris peut-être eux aussi éprouvés?
Ce n'est pas une situation normale. La guerre se passe sur notre territoire. Ce qu'il y a eu à Ganji, je n'en sais rien. À l'époque, on vivait normalement. Nous n'avions aucun problème. Les gens ne sont pas mauvais. Ce sont leurs chefs qui sont mauvais.
Alors que le pouvoir azerbaïdjanais ne communique que sur les victimes civiles, les Arméniens du Haut-Karabakh, eux, déclarent sans distinction les morts au combat et ceux victimes innocentes des bombardements.
Reportage de Claude Briot depuis Stepanakert. Enfin, le temps de ce mercredi, Jean-Baptiste prévoyait du vent persistant sur l'ensemble du territoire. Le ciel sera partiellement couvert avec tout de même de jolies éclaircies dans le sud-ouest. Les températures, elles, sont en hausse. Ce matin, il fait 9 degrés à Strasbourg, 16 à Rennes et à Paris, 17 à Bordeaux et à Lyon, 18 à Marseille. Et déjà 20 degrés à Biarritz, Jean-Baptiste.
C'était Damien Mestre, qu'on retrouve demain, dès 7h. Prochain point sur l'actualité sur France Musique, à 13h. À demain, Damien.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.